Stéphanie Gibaud, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes le grand témoin du dossier UBS qui revient devant la Cour d'appel de Paris aujourd'hui. Le procès en appel débute avec un procès qui effectivement parle de fraude fiscale. Vous êtes le grand témoin, la lanceuse d'alerte, hein, mais on va en reparler ensemble. La femme qui en savait vraiment trop, c'est le titre de votre ouvrage. On s'était parlé il y a 2 ans et demi maintenant, effectivement, au début de ce procès. Comment allez-vous, Stéphanie Gibaud?
Vous savez, quand on porte une histoire comme celle-ci, qui dure pour moi depuis 2007-2008, donc ça fait la 15e année qui commence, c'est même, sont plus des vies, hein, ce sont des vies parallèles ou des survies, puisque plus rien n'existe à part ce néant et à la fois cette problématique qui est trop lourde à porter pour un seul citoyen pour une seule personne. Donc, ce sont des situations d'isolement et de difficultés extrêmes, puisque j'entame ma 12e année de procédure en justice, à la fois contre la banque UBS et aussi contre l'État français. Mais j'imagine qu'on aura le temps d'en parler plus longuement pendant cette interview.
Oui, parce que effectivement, je disais lanceuse d'alerte, mais si on parle à Bercy, au ministère de Bercy, Bercy vous considère simplement comme un témoin, alors même que sans vous, jamais effectivement ce dossier ne serait aujourd'hui en cours d'appel.
C'est bien la complexité de cette histoire. C'est à la fois avoir d'un côté une banque qui fraude. Alors on pourrait le mettre au conditionnel, une banque qui frauderait ou qui aurait fraudé, mais qui a donc été condamnée à l'amende la plus importante qu'ait donnée la justice française à une banque, hein, donc 4,5 milliards d'euros. Donc ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, on a un État qui dit lutter contre la fraude, qui dit protéger les lanceurs d'alerte, qui m'a fait travailler pour ses services pendant plus d'une année, de mai 2011 à l'été 2012, et qui ose m'écrire depuis des années que je ne suis qu'un témoin qui a été utilisé dans un dossier, que je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Alors vous imaginez, UBS est en plus immédiatement rentré dans cette brèche en disant, et voyez, cette femme, on a toujours dit qu'elle était une menteuse, une manipulatrice, elle n'était pas banquier, elle n'y connaissait strictement rien. Donc la vraie question, c'est de se demander si on n'a pas affaire aux deux mêmes côtés d'une pièce. C'est extraordinaire. J'ai été obligée d'attaquer l'État français en 2018. Et j'ai été reconnue justement par le tribunal administratif comme étant collaboratrice occasionnelle du service public, qui prouve donc que j'ai bien travaillé pendant plus d'un an pour Bercy et que toutes ces informations, elles ont justement aidé à ce que la banque puisse être condamnée en première instance. Mais alors, ce qui est très surprenant, au-delà de Bercy, c'est que moi, je n'ai jamais été entendue ni par le juge d'instruction, ni par le juge ou les juges pendant les enquêtes, et je n'ai jamais été contactée par qui que ce soit au niveau du ministère de la Justice.
Oui, ça, c'est pas le moins étonnant, effectivement, de ce procès. C'est vous êtes quelque part l'un des principaux témoins, et sans vous, on l'a dit, ce procès n'aurait pas eu lieu, et les juges peuvent de même, enfin, ne pas avoir besoin de votre témoignage. Ça paraît incroyable.
Mais c'est, je crois, toute la complexité des affaires qu'on pourrait qualifier d'affaires d'État, puisque vous le savez comme moi, la Suisse a finalement transmis, après des années de tergiversation, à Bercy 44 000 comptes, donc comptes offshore, de citoyens français. Ça a été transmis l'année dernière. Et il y a une petite spécificité, c'est que justement, seul Bercy peut exploiter cette liste, c'est-à-dire absolument pas la justice française.
Oui, donc ça c'est effectivement particulier et ça montre qu'on n'a pas forcément toute la transparence qu'on pouvait en tout cas attendre, y compris en tant que citoyen. Le procès aujourd'hui, ça veut dire pour vous, ça, pour l'instant, ça change rien à votre situation personnelle, bien entendu, et au fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas reconnu par rapport à ce que vous avez fait pour le compte de l'État français.
Alors, il y a quelque chose dans ce que vous dites qui est d'une gravité inouïe que personne ne connaît, puisque c'est mon histoire. C'est-à-dire qu'après avoir été reconnu par le tribunal administratif, l'État pouvait donc rétribuer et rémunérer les informations que je leur ai communiquées sur ordre, puisqu'après une affaire comme celle-ci, il est bien évident qu'on ne peut absolument pas se repositionner professionnellement. On peut rappeler pour les gens qui nous écoutent que la clientèle d'UBS est une clientèle de gestion de fortune. Donc ce sont les plus riches contribuables français, donc ceux qui sont à la tête des entreprises, des industries, etc., etc. Donc porter un dossier comme celui-ci, c'est quand même c'est un arrêt à la carrière, hein. Moi, je ne travaille plus depuis 9 ans. Je viens d'entamer ma 10e année sans revenu. Pas si vous imaginez, pour avoir aidé l'État à mettre la main sur la fraude la plus importante qu'il n'ait jamais vue à Bercy, ils me l'ont dit. Donc, grâce à ça, il y a 4 milliards qui sont rentrés à la cellule de régularisation de comptes offshore UBS. La justice avait condamné UBS à 4,5 milliards d'euros il y a 2 ans, et les 40 000 comptes qui viennent de rentrer à Bercy représentent à peu près 12 milliards d'euros. Et par rapport à ça, vous vous retrouvez en procédure juridique contre l'une des parties, c'est-à-dire la banque, et contre l'autre partie, qui est l'État français, puisque comme vous savez, on ne peut pas attaquer une banque en tant que citoyen, c'est une fonction régalienne, hein, de s'attaquer à l'évasion fiscale. Donc en fait, vous avez les deux parties d'une pièce, et moi j'ai l'impression d'être une pierre angulaire, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour cette banque, donc je sais le métier que j'y ai fait, et je sais tous les gens et tous les process qui ont été utilisés. J'ai dû aider l'État sur ordre. Et finalement, l'un comme l'autre s'accordent à dire que je n'étais pas une lanceuse d'alerte, que je n'étais pas quelqu'un de bien. Donc, la justice ayant validé que j'étais collaborateur du service public, il n'appartenait qu'à Bercy de rétribuer mes informations et pour montrer l'exemple aussi. Parce que si vous voulez, avec un dossier comme le mien, qui dans les banques va aller oser dénoncer les dysfonctionnements, voire les crimes financiers. C'est juste pas possible. Vous voyez bien qu'on force les gens à se taire, qu'on force les gens à courber les chines et qu'on n'a pas du tout envie ni de transparence, ni d'éthique, ni d'intégrité dans cette industrie. Donc, étant en procédure contre l'État, l'un des avocats d'UBS qui a croisé le mien, je termine juste là-dessus, l'un des avocats d'UBS qui a croisé le mien il y a plus de 2 ans, m'a dit, mais lors de l'appel, nous utiliserons le jugement de Madame Gibault contre l'État français pour viser une erreur de procédure. C'est-à-dire ne pas aller sur le fond de l'affaire et sur l'évasion fiscale, mais aller sur le fait que les informations ont été communiquées à l'État par une de leurs collaboratrices qui est en procès contre eux.
Oui, donc ça, je dirais, c'est pas encourageant pour les lanceuses et lanceurs d'alerte qu'on peut trouver dans tous les secteurs aujourd'hui, puisque finalement, ce sont souvent à partir d'eux que effectivement des dossiers peuvent sortir. Ça encourage pas effectivement à quand on voit des choses et qui sont illégales à effectivement le dire finalement.
C'est toute la problématique que j'ai soulevée dans mon deuxième livre qui s'appelle « La traque des lanceurs d'alerte » où j'ai interrogé plus de 50 lanceurs d'alerte et fait intervenir, je crois, 300 ou 350 personnes. C'est-à-dire que est-ce qu'on est dans une société qui veut de plus en plus de lanceurs d'alerte ou de moins en moins de lanceurs d'alerte ? Avec des exemples comme le mien, et je ne suis pas la seule, malheureusement, vous voyez bien que justement, on sert d'épouvantail pour que personne n'ose, parce qu'il faut beaucoup de courage pour oser dire la vérité.
Donc, ce procès va se dérouler maintenant pendant plusieurs semaines, effectivement. On va suivre ce qui se dit et puis ce que vous avez rappelé là sur les moyens utilisés par notamment par UBS pour se défendre. Sur les perspectives, sur vos perspectives à vous, est-ce que vous espérez quand même que du coup, grâce à cette décision de justice que vous avez mentionnée, qu'un jour l'État reconnaîtra effectivement votre rôle de manière, on va dire, précisée, en tout cas sonnante et trébuchante, on pourrait le dire, compte tenu des sommes qui vont être récupérées par l'État.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. C'est-à-dire que nous sommes dans une année où le Covid étant passé par là, avec les confinements, la problématique des masques, des vaccins, des tests, etc., etc., où les gens, les citoyens, s'éveillent, cherchent l'information, ils prennent plus ce qu'on leur dit comme argent comptant, et de ce fait se posent des questions, et notamment des questions sur comment nos États, notre État fonctionne. Le fait que les gens se posent de plus en plus de questions, ça met un doute dans leur esprit. Et que là où on dit qu'on n'a pas d'argent pour les infirmières, pour les augmenter, qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, on ferme des lits, qu'il n'y a pas d'argent pour payer les heures supplémentaires des policiers, qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles, pour les professeurs, c'est en opposition totale avec mon dossier, où moi j'ai apporté plus de 20 milliards d'euros à l'État, et où on ne sait pas où est allé l'argent. Personne ne demande de compte. Où sont allés ces 12, 15, 20 milliards? À quoi est-ce qu'ils ont servi? Donc, je pense que d'un côté, il y a cet éveil des citoyens. De l'autre côté, il y a les générations Y et Z, notamment là, ceux qui ont 18, 20 ans et qui arrivent dans le monde des adultes et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce monde qui est en train d'être laissé par… par les gens de ma génération. Donc, on est à la fin là, d'un endormissement avec des mots qui ne restent que des mots. Je pense qu'il y a peut-être aussi, grâce aux médias indépendants qui ont vu le jour sur Internet depuis plusieurs années, qui commencent à avoir beaucoup de succès, grâce aux hackers, les informations peuvent être révélées. On le sait grâce à Snowden et par Assange notamment, c'est qu'en fait, plus rien aujourd'hui ne peut rester caché. Alors, peut-être que si la justice ne fait pas son travail correctement, ou si Bercy ne fait pas son travail correctement, les hauts fonctionnaires qui ont justement refusé de m'appliquer la loi, parce qu'on en est là, hein, moi, je ne demande pas quelque chose qui sorte du chapeau, je demande juste à ce qu'on m'applique la loi. Il y a une loi qui s'appelle la rétribution des aviseurs des douanes, c'est exactement ce que je suis, et c'est ce que le tribunal administratif a validé il y a 2 ans et demi. On voit vraiment qu'on est sur une espèce d'oligarchie, voire de ploutocratie, c'est-à-dire ces hauts fonctionnaires dont personne ne connaît le nom et personne ne connaît le visage, qui jouent leur carrière et qui décident de votre vie. Pourquoi est-ce qu'on refuse de m'appliquer la loi? Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça? Pourquoi est-ce que c'est l'État qui me refuse? Alors que justement, j'ai aidé l'État à lutter contre la fraude fiscale. Vous voyez bien que tout ça, ça fait partie de mensonges, ce que j'appelle le mensonge en bande organisée. J'avais déjà dit que chez UBS, c'était la culture du mensonge, mais là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? Qu'est-ce qu'on veut que soit la France? Parce que là, avec justement le Covid depuis plus d'un an, on se rend compte quand même que le manque d'éthique détruit notre pays petit à petit. C'est pas moi qui vais vous apprendre qu'on est en train de revoir les retraites, les indemnités pour les chômeurs, qu'il y aura là dans les mois et les années qui viennent de plus en plus de gens sans travail ou avec un travail précaire. Donc, il faut vraiment refaire tout un socle de valeurs pour avancer tous ensemble. Donc, quand on fait des exemples comme moi, qui suis une femme, qui était une maman dans le pays des droits de l'homme.
C'est la journée des droits des femmes. Aujourd'hui, on tombe sur cette journée des droits des femmes et vous en êtes une qui a pris des risques dans sa vie.
Et vous imaginez qu'on est en France, on n'est pas a priori dans une dictature ou un pays du tiers-monde. Imaginez ce que mon histoire, parce que là, vous êtes français, vous m'interviewez pour une communauté française. Imaginez que je donne quand même des interviews à l'étranger. Imaginez aussi que mes informations ont aidé certains pays étrangers. Donc, quelle image ça donne de la France de traiter comme ça les gens qui sont honnêtes, qui ont refusé, parce que bon, chez UBS, j'ai refusé de détruire des données confidentielles, des données justement qui concernaient des clients. Imaginez ce que ça met dans l'esprit des gens une histoire comme la mienne. La seule chose qu'on m'ait dit pendant 10 ans, c'est « Madame, vous faites peur ». je fais peur d'être intègre, je fais peur de dire la vérité. Mais c'est quand même très très grave, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est à l'opposé, on a l'impression que les valeurs sont opposées. Vous voyez, tous les gens qui sont mis en examen dans l'affaire UBS, hein, ils étaient 6 et ils ont été 5 à être condamnés en première instance, ces gens-là travaillent encore tous chez UBS et ont eu des promotions, ou ils travaillent tous à la concurrence, c'est-à-dire dans l'industrie financière.
Ouais, c'est
Pourquoi est-ce que
intéressant.
l'industrie préfère embaucher des gens qui sont mis en examen, des gens qui, a priori, ont aidé à ces fraudes, et que des gens comme moi qui se sont levés, qui ont tout perdu, alors, et qui sont en procédure judiciaire depuis des années, ne peuvent pas être dans le marché du travail? Pourquoi est-ce que les entreprises refusent, d'embaucher des gens intègres, des gens éthiques?
Ouais,
Ça vous
c'est un
donne une
vrai.
tendance quand même de ce qu'est le monde dans lequel on est?
Ouais. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà, on va suivre ce procès. Merci de avoir accordé cet entretien, puisqu'on s'était vu effectivement à distance aussi il y a 2 ans et demi maintenant. Voilà, on suit toujours ce procès de près, puisque effectivement, les contribuables peuvent se sentir concernés vu les montants en jeu et les sommes que l'État pourrait récupérer. Merci Stéphanie Gibaud d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.